C'était pas prévu, mais j'ai remis sur le rétroprojecteur ce dernier couplet de ce chant, et particulièrement les dernières paroles qui sont bien dans le thème de ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je connais le fond de toi, je vois bien l'au-delà. Jusqu'au bout des jours, rien ne changera mon amour. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà.
Et à part ça, j'avais préparé un petit florilège de versets
que nous allons lire ensemble. Premier verset qui nous dit ceci. Votre Père sait de quoi vous avez envie avant que vous le lui demandiez. Deuxième verset. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez envie. Il guérit aussi ceux qui avaient envie d'être guéris. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a envie. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur que se repent, pour que 99 justes qui n'ont pas envie de repentance. Dans les Actes, on nous dit que les premiers chrétiens vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les désirs de chacun. Et l'on faisait des distributions à chacun, selon ce qu'il avait envie. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes désirs et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Et enfin, dernier verset, on nous rendit de grands honneurs, et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions envie. Et comme vous l'avez constaté, toutes ces lectures s'articulent autour d'un mot, et je ne vais pas vous laisser vous interroger plus longtemps sur mon acuité visuelle, ou peut-être même ma santé mentale. C'est bien volontairement que j'ai substitué le mot « besoin » au mot « envie » ou « désir ». Le besoin, avoir besoin, être dans le besoin, pas besoin. Depuis pas mal d'années maintenant, mon travail consiste à répondre aux besoins de clients, des industriels, pour la plupart de petites entreprises spécialisées. Alors là, jusque-là, il n'y a rien d'original, puisque c'est bien le propre de toute activité commerciale ou industrielle de fournir à des clients, de vendre un produit censé répondre à leurs besoins. Et les publicitaires s'y entendent à merveille pour susciter chez le consommateur des besoins dont ils n'ont même pas l'idée, même pas conscience. Et croire qu'ils se sont même approprié la phrase de Jésus que nous venons de lire pour la reprendre à leur compte. Nous savons de quoi vous avez besoin avant même que vous nous le demandiez. Ne vous inquiétez pas, on le sait mieux que vous et on s'occupe de tout. Et pour en revenir à ce qui fait la particularité de mon activité professionnelle, il se trouve qu'elle suit un schéma un petit peu contraire à ce modèle et un peu comme vous consultez un architecte pour construire une maison qui corresponde à vos besoins, eh bien, nos clients nous soumettent leurs besoins la plupart du temps, parce que c'est ce qu'on sait faire, en moyens techniques de production, des machines, des accessoires de machines, des modifications de machines existantes. Et pour cela, ils nous remettent un cahier des charges, parfois. Sinon, la plupart du temps, il s'agit de réunions autour d'une table où ils exposent leurs besoins. Et là, ce que j'ai constaté depuis quand même pas mal d'années, c'est qu'en fait, très peu d'entre eux, très peu, savent vraiment exprimer leurs vrais besoins, le besoin essentiel, leurs besoins de base. La plupart du temps, ils se lancent dans une description des solutions telles qu'ils l'imaginent. Certains même commencent à esquisser comme ça sur le coin d'une table quelques contours de machines avec des systèmes divers, des bras, des poulies, tout ce que vous voulez, des flèches qui représentent les pièces en mouvement, que sais-je encore. Voilà. Mais pas vraiment le besoin, ils sont déjà dans la solution. Et puis, quand ils ont pris la peine de rédiger un cahier des charges, même s'ils ont fait cet effort-là, ce cahier des charges traduit souvent l'expression de leurs besoins, ça traduit moins souvent l'expression de leurs besoins que la liste des solutions à mettre en œuvre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les solutions sont non seulement le résultat de leur réflexion, mais comportent en elles-mêmes une part qui les constituent à partir de ce qu'ils ont vécu, de leur expérience, d'un vécu, de leur métier, d'échecs et de réussites, d'un certain nombre de choses qui ont orienté leur pensée ou ont stimulé leur créativité ou au contraire ont bridé, ont censuré leur créativité. Et aussi, alors il y a d'autres choses à côté qui ressortent comme ça. Ce que pense le chef, c'est très important. Ou ce que pense le banquier aussi, ça c'est très important. Et là, quand je retourne dans mon bureau, puis que je reprends tout ça, il faut que je prenne un peu de recul et que je mène toute une réflexion pour analyser à travers l'expression, leur expression, et déceler à travers tous les échanges qu'on a pu avoir, quel est le vrai problème, quel est le vrai besoin. Et il m'est arrivé parfois de constater que le problème n'est pas du tout celui qu'on croit, que le besoin n'est pas du tout celui qui est exprimé. Quel est le besoin d'une personne fatiguée? De quoi a besoin une personne fatiguée? C'est le moment, hein, on y est là, les vacances, on a une année derrière nous, on est tous plus ou moins au bout, hein, donc... Quel est notre besoin maintenant de personnes fatiguées? Dormir. Du café. Ça, je ne m'attendais pas à ça, oui. Du repos. Voilà, alors je m'attendais bien à ça, par contre. Instinctivement, c'est ça qui vient dormir, hein, se reposer. Mais qu'est-ce qui t'a fatigué? Manque de reconnaissance, d'encouragement? C'est un mal fréquent de nos jours. 5 semaines de congé, ça va y changer quelque chose? Alors que un bon encouragement, et c'est reparti. Et vous m'en voudrez pas si une fois de plus, je cite mon copain Mark Twain, avec un bon compliment, je peux vivre au moins 2 mois. Autre chose qui peut m'avoir fatigué, des soucis de tous ordres, familiaux, professionnels, ou même d'église. Le stress d'une situation tendue qui se prolonge. Est-ce que me reposer va résoudre ces problèmes? Va enlever la fatigue qui est due à ces problèmes? Alors que s'ils disparaissent, en 3 jours, je suis sur pied et regonflé à bloc. Une fatigue peut aussi cacher un problème de santé, une carence alimentaire en quelques minéraux. Donc il y a quand même, et je pense qu'on peut encore, trouver des tas d'autres... cause à une fatigue qui est bien réelle. Il est très très compliqué de prendre conscience de nos vrais besoins et la plupart du temps, nous exprimons nos désirs, nous exprimons nos envies de café, de dormir. Ah oui, dormir. Ce à quoi nous aspirons, mais pas nos besoins. Et fort heureusement, nous avons lu un verset qui nous dit que nous avons un Père qui connaît nos besoins avant même que nous les demandions. Donc mieux que nous-mêmes. Et je voudrais mettre cette réflexion qu'on a au sujet des besoins en rapport avec la question de l'avenir pastoral de notre Église. Vous le savez, cet automne, nous aurons à prendre des décisions d'une très grande importance. Et ça va commencer dès la rentrée, le 2 septembre, avec la visite d'un prédicateur extérieur, Étienne Lermenot, sur un thème qui est celui-ci, la définition du pasteur selon la Bible. Et ensuite, on enchaînera derrière le 16 septembre par une réunion d'église. Alors là, je lis, hein, tel que c'est écrit sur le bulletin, le sujet de cette réunion. Réunion d'église au cours de laquelle chacun sera appelé à exprimer ce qu'il attend de son futur pasteur. C'est bien dit, non? Ça, c'est moi qui l'écris. Besoin de reconnaissance. On est en plein dans le sujet. Nous avons devant nous 2 mois pour trouver l'expression de notre réponse à cette question. Qu'est-ce que j'attends de mon futur pasteur? Et le but de cela, bien entendu, c'est de dégager, on n'ira pas dire un cahier des charges, mais une tendance générale, une direction à prendre qui pourra nous être utile pour la suite des choses, lorsqu'il faudra nous prononcer sur les candidatures qui nous seront présentées, et la première de ces candidatures étant celle d'Éric au mois d'octobre. Nous avons 2 mois pour nous placer dans des dispositions telles que nos vrais besoins soient mis en lumière. Besoin en tant qu'individu, membre, besoin en tant qu'Église. De quoi aurais-je vraiment besoin? De quoi mon Église aura-t-elle vraiment besoin? Et d'abord, peut-être cette première question, aurais-je besoin, mon Église aura-t-elle besoin d'un nouveau pasteur après le départ de Samuel? Et si oui, quel est mon besoin pastoral? Quel est le besoin pastoral de mon Église? Jusqu'à présent, nous nous sommes trouvés face à une situation qui était celle-ci. Samuel, on le sait, va partir d'ici 1 an. Dans 1 an et quelques semaines, Samuel ne sera plus parmi nous. Et face à cette situation, nous avons déjà commencé à élaborer des solutions. Et on en a, parmi toutes ces solutions, on en a retenu 3. La première qui est de ne pas remplacer Samuel. La deuxième qui est d'inviter Éric à prendre la suite après Samuel. Et la troisième, d'inviter un pasteur extérieur. Et ensuite, donc ceci c'est ce qui nous a été proposé comme solution à cette situation lors de l'Assemblée Générale. Et ensuite nous avons décidé de prendre un temps de réflexion, de prière. Et maintenant le moment commence à approcher où il va falloir nous prononcer. Et avant cela, eh bien nous sommes invités à répondre sur nous-mêmes, à nous poser une question, à mener une réflexion sur nous-mêmes pour répondre le 16 septembre, en particulier sur nos besoins individuels et collectifs. Je crois que pour vraiment bien répondre à cette question, qu'est-ce que nous attendons de notre pasteur, nous allons devoir prendre un peu de distance avec les 3 solutions proposées. Quel que soit notre positionnement par rapport à ces situations, à ces solutions, que nous penchions pour une solution, pour une autre, ou que même nous n'ayons pas d'idée préétablie, nous allons devoir prendre un peu de distance au cours de ces 2 mois par rapport à ces solutions. Nous débarrasser peut-être de nos certitudes. Remettre en question ce qu'on a toujours pensé, ou ce dont on estime s'être définitivement convaincu. Oublier pour un temps notre expérience passée afin de vérifier qu'un élément nouveau n'est pas en train de nous dire que là, cette fois, peut-être, c'est différent. S'assurer qu'on n'est pas en train de négliger un élément important. On dit que l'expérience du capitaine du Titanic a joué contre lui dans l'évaluation de la situation à laquelle il était confronté. Tout d'abord, il faut savoir que c'était un marin à la carrière exemplaire. Il a convoyé des centaines de milliers de personnes toute sa carrière sur toutes les mers du globe dans des situations qu'on peut imaginer les plus périlleuses sans que jamais aucune d'elles n'ait été mise en danger. Son dernier voyage, à ce moment-là, c'était son dernier voyage avant une retraite bien méritée. Il était sur un bateau dont on avait orgueilleusement dit que Dieu lui-même ne pourrait pas le couler. Et c'est à cet homme sûr et expérimenté qu'on a confié le voyage inaugural du fleuron de la marine civile de son époque. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'à son arrivée à New York, il soit couvert de gloire. Malheureusement, d'autres conditions s'étaient réunies pour que ses certitudes et son expérience ne pèsent pas lourd face à la situation présente. Son sentiment de sécurité sur ce bateau réputé insubmersible, conjugué à une peut-être trop forte confiance en lui, tout cela a eu raison de sa vigilance au point de perturber sa vision de la situation et d'être dans l'incapacité de discerner que cette fois, c'était différent de tout ce qu'il avait pu rencontrer. Plus jeune, et moins expérimenté, il se serait peut-être finalement mieux sorti de cette difficulté parce qu'il aurait été plus humble, plus vigilant, moins englué dans ses certitudes. Quand je pense au capitaine du Titanic, il me revient ce verset que Jésus a dit dans un autre contexte très différent, mais qui peut vraiment s'appliquer. Quand les hommes diront « paix et sûreté », une ruine soudaine les surprendra. On sait dans quel contexte Jésus a dit ceci. Il s'agit du contexte de l'ambiance qui régnera à la fin des temps, avant son retour. Mais cette phrase, c'est pas Jésus, pardon, c'est Paul. Cette phrase de Paul aux Thessaloniciens a de nombreuses applications dans nos vies. Et je suis persuadé que le capitaine du Titanic l'a vécu dramatiquement. Je ne sais pas s'il la connaissait, mais je pense qu'il a vécu dramatiquement ce passage d'une ambiance de paix, de sécurité, à une situation d'horreur absolue. De quoi est constituée l'expérience? Tout d'abord, on a une base de fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que les fondamentaux? En football, on utilise beaucoup cette expression-là. Les footballeurs, je l'entends beaucoup. Et ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que quand plus rien ne marche, quand tout s'écroule, que tout ce que nous croyons maîtriser, tout à coup, ne fonctionne plus. Nos schémas de construction, notre organisation, quand tout ça s'écroule, alors on revient aux fondamentaux du football. Les fondamentaux, on ne les remet jamais en cause. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, à tous les débordements, et ça se termine dans le chaos. Notre fondamental, en tant que chrétien, en matière d'Église, c'est la parole de Dieu. Rien ne saurait la remettre en cause. Rien ne saurait se substituer à elle comme autorité morale, spirituelle et théologique. C'est l'instrument qui nous est donné par Dieu, sur lequel il nous faut jouer. Mais tant qu'on ne touche pas à cet instrument pour le désaccorder, tant qu'on ne change pas d'instrument, alors nous pouvons jouer la musique dessus, la musique que nous voulons, selon notre inspiration. Si ce piano, nous le mettons, qui est un instrument qu'on prend comme il est, si nous le mettons à la disposition d'un arabe, d'un chinois, d'un indien, un sud-américain, on n'aura pas du tout la même musique, la même mélodie, la même harmonie que celle que nous avons l'habitude d'entendre dans nos contrées occidentales. Et même si on met une Irlandaise ou une Slave sur ce piano, on entendra, qui sont deux Européennes, on n'entendra pas du tout les mêmes harmonies. C'est à nous qu'il appartient de composer des partitions harmonieuses, et ces mélodies disent qui nous sommes. Mais attention, que notre identité ne se résume pas à notre musique. Si le capitaine du Titanic était revenu aux fondamentaux, il aurait ralenti l'allure à l'annonce d'une zone d'iceberg. Il ne se serait pas laissé abuser par ces ingénieurs sûrs de leurs calculs qui proclamaient que le bateau était invulnérable. Son esprit aurait été éveillé par un incident qui était survenu quelque temps plus tôt à un autre bateau qui était le frère jumeau du Titanic, qui s'appelait l'Olympique, et qui avait révélé à l'occasion d'une manœuvre dans un port que le gouvernail de ce grand bateau était trop petit pour manœuvrer rapidement un tel bateau, une telle masse, et qu'il nécessitait plus d'anticipation. Combien de fois notre expérience a joué contre nous en produisant en nous de fausses certitudes, en nous poussant à nous appuyer sur des schémas préconçus qui, cette fois, n'ont pas suffi, n'étaient plus adaptés. Alors que les jeunes ne s'imaginent pas qu'ils sont à l'abri de cela. Et les certitudes trompeuses ne sont pas l'apanage de ceux qui approchent l'âge de la retraite. La jeunesse a les siennes. Et ça prend souvent peut-être un peu plus la forme d'illusion. Nous sommes une église très structurée. C'est très bien. Nous avons un schéma d'organisation bien rodé. Très bien. Nous avons deux anciens, dont un à plein temps, entourés d'un collège de diacres Et tout ça forme le conseil d'église. Très bien. Nous avons ensuite des responsables d'activité qui prennent en charge les différentes activités de l'église, les groupes de maison, des commissions, l'enseignement des enfants, l'entretien des locaux, et j'en passe. Et puis, pour mettre un peu de liant dans tout ça, nous essayons de faire en sorte que tout ce petit monde communique par l'intermédiaire d'IP, c'est-à-dire interlocuteur privilégié, désigné au sein du conseil. Très bien. Et tout cela produit une belle musique. Surtout, on tient à ce que chacun ait une ligne de partition personnelle. Et ça, c'est vraiment très, très, très bien. Il y a quelques fausses notes, forcément. Mais comme on ne se prend pas trop au sérieux, et grâce à l'amour fraternel, on continue de jouer ensemble. Mais les vacances approchent, et déjà, pour certains, elles sont là. Et ces vacances, eh bien, ça va être l'occasion de mettre un peu de distance entre nous et toute cette organisation, cette structure de l'Église. Et ça, c'est très bien aussi. C'est d'autant mieux qu'à la rentrée, nous aurons des décisions très importantes à prendre, décisions qui vont toucher la structure même de notre Église. Les vacances nous permettent de prendre une distance supplémentaire et, sans esprit de supériorité, un peu de hauteur. Ah tiens, c'est intéressant. Là, il y a des choses que je vois que je ne voyais pas de la chair. Bon, je ne pourrais pas, évidemment, continuer toute la prédication d'ici parce que ça va mettre trop de distance entre nous. Il y a des choses qui ne vont pas passer, mais de temps en temps, oui. Avoir une vision comme celle-ci, c'est pas mal. Surtout, à droite, à gauche, il y avait des choses qui m'échappaient. Des personnes qui étaient cachées, des détails qui m'échappaient vraiment. J'ai souvent été frappé, puisqu'on parle de vacances, et que je suis campeur, j'étais, parce que maintenant, c'est un peu plus difficile, par le paradoxe qui existe entre le confort de toute l'année, qu'on recherche un peu toute l'année, et puis celui des vacances. On travaille toute l'année pour améliorer notre niveau de vie, et là, pendant un temps limité, quelques jours, quelques semaines, on éprouve le besoin, curieusement, mais volontairement, et pour se détendre en plus, de se mettre dans des conditions de précarité, donc on ne supporterait pas le reste du temps. Alors je sais bien que tout le monde ne pratique pas le camping parmi nous, mais je vous propose un temps de camping ecclésiologique. Oubliez pour un temps nos certitudes. Nous dépouiller pour un temps de nos traditions, de nos schémas de pensée, pour ne conserver que le fondamental, la parole de Dieu, et nous poser les questions essentielles qui vont guider nos choix à la rentrée. Rien de tel que ce moment de vacances pour réfléchir à nos vrais besoins, nos besoins profonds. Rappelons-nous les versets que nous avons lus qui nous disent que Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes et surtout avant même que nous les lui demandions. À croire que finalement nous sommes les plus mal placés pour connaître nos vrais besoins. Nous appelons bien souvent besoin ce qui n'est que l'expression de désir, d'espoir, d'attente. Et tout cela est une espèce de bric-à-brac, basé sur nos expériences, bonnes ou mauvaises, notre histoire, nos goûts, mais dans lequel on perd peut-être la notion, la vision de qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Que garde-t-il en réserve pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour mon Église? À quelle Église veut-il que je contribue? Si le 16 septembre, nous nous présentons en exprimant seulement des désirs, alors il est certain que nous aurons un patchwork de dizaines de lignes de partition qui risquent d'être dissonantes, et tout ça ne va pas tellement nous aider dans nos choix. Mais si par contre nous parvenons à nous placer devant le Seigneur, afin qu'il nous aide à discerner nos vrais besoins, nos propres besoins, lui qui sait, avant que nous le demandions, il sait si bien de quoi nous avons besoin, comme individu et comme Église. et que nous acceptions d'inscrire nos désirs dans la ligne de ses besoins, de soumettre nos désirs à nos besoins, les besoins réels qui sont légitimes et incontestables. Alors je suis convaincu qu'une mélodie harmonieuse peut sortir de cette réunion du 16 septembre et que là ce sera un jalon, un point de repère pour nos décisions ultérieures. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une église en prière. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une église qui se débarrasse pour un temps de son histoire, de ses expériences. Aujourd'hui, nous avons besoin de revenir aux fondamentaux, la parole de Dieu pour nous éclairer. Aujourd'hui, nous avons besoin de crier à Dieu, « Montre-moi, qu'est-ce que je dois te demander ?» Toi qui connais mes besoins mieux que moi-même. Quand Paul nous dit de nous dépouiller du vieil homme, il parle évidemment de celui que nous étions avant notre nouvelle naissance, de celui que nous étions avant de rencontrer Dieu. Mais est-ce que vous ne croyez pas que des vieils hommes peuvent apparaître dans notre façon de vivre, notre vie chrétienne ? Et dans notre Église, si nous ne renouvelons pas de temps en temps notre vision des choses, est-ce que vous ne croyez pas que des vieils hommes trimballent avec eux toutes sortes d'histoires, d'expériences, de préjugés, de postulats sans fondement biblique, et qu'ils peuvent faire obstacle en nous-mêmes à un véritable discernement de ce que Dieu veut nous donner de meilleur? Alors, je vous invite dans la préparation de cette échéance à la rentrée, tous, sans exception, à mettre de côté la partition que nous avons l'habitude de jouer pour ne garder que les fondements de la parole et à nous présenter devant Dieu avec cette seule certitude, notre Père sait de quoi nous avons besoin. Prions. Seigneur, que dire de plus que te louer parce que tu es si puissant pour connaître nos besoins avant même que tu nous aies... Nous te les demandions. Merci, Seigneur, de toi qui nous as formés, toi qui nous as assemblés ici, si différents, mais en même temps dans un même troupeau. Merci de nous diriger et nous te prions d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions discerner quelle est ta volonté, quels sont les besoins que nous pourrons exprimer afin que ton œuvre se perpétue dans ton Église, à Clermont. Amen.